Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrons nos Bibles pour étudier ensemble la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 1. Le message que l'Esprit de Dieu nous apporte ce matin est une parole très forte, une parole qui, je crois, a des implications profondes. C'est une parole que nul ne peut, quel que soit le moyen utilisé, embrasser pleinement pendant l'heure que nous avons aujourd'hui. Mais je veux que vous écoutiez très attentivement, parce que ce n'est pas un message qu'on entend souvent. Pourtant, un message très nécessaire. 1 Timothée chapitre 1. Nous étudions 1 Timothée. Nous sommes maintenant aux trois derniers versets du chapitre 1. Le texte dit, en commençant au verset 18, « Timothée mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles. Combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Dans notre étude de ce passage, pendant que nous faisons une présentation de 1 Timothée, nous avons toujours noté ces trois versets, mais dimanche passé et aujourd'hui, nous nous focalisons sur l'expression au verset 20, « livré à Satan ». Une pensée effrayante, une réalité terrifiante, mais que l'Église doit comprendre. Satan, l'ennemi de Dieu, celui qui est Dieu, le menteur, le meurtrier, le démon, le leader des forces démoniaques, celui qui méprise Christ, l'infernal enragé qui vit pour détruire tout ce que Dieu crée, et il sera par la suite consigné dans le lac de feu où il sera tourmenté pour l'éternité. Satan, ce faiseur de pervers, ce faiseur de fous et de criminels, ce dévastateur de familles, créateur du chaos, lui être livré est en réalité quelque chose de terrifiant. Maintenant, j'ai mentionné la dernière fois que nous avons étudié ceci, que pour être livré à Satan, nous devons supposer qu'au préalable, on n'était pas sous son plein contrôle. Laissez-moi vous l'expliquer un peu plus en profondeur. Toute l'humanité non rachetée est dans le péché, et les Écritures nous disent dans 1 Jean 5,19 que le monde entier est soumis au pouvoir du méchant. Plus, Romains 1, 18 et 32 dit que parce que l'homme est tombé dans le péché, Dieu l'a livré. Il dit encore que Dieu l'a livré. Et une troisième fois, Dieu l'a livré à ses pensées réprouvées pour faire toutes sortes de mal. Ce que cela signifie, c'est que Dieu a abandonné la race humaine dans le péché, au pouvoir de Satan. C'est la raison pour laquelle Éphésiens chapitre 2 et le verset 2 dit que les gens non rachetés qui sont morts par leurs offenses et leurs péchés marchent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Toute l'humanité qui n'est pas rachetée est au pouvoir de Satan. Qui sont donc ceux qui sont livrés à Satan? Ce doit être ceux qui y ont trouvé un havre de paix. Nous avons vu la dernière fois qu'en réalité, certains qui font partie de la communauté des rachetés, même s'ils sont des non-croyants qui s'associent extérieurement, ont trouvé dans cette association une certaine protection. 1 Corinthiens 7 dit qu'une femme non-croyante est sanctifiée par un mari croyant, et une femme croyante sanctifie un mari non-croyant, et les enfants sont sanctifiés dans une maison où il y a un parent croyant. En d'autres termes, être identifié à une communauté de rachetés, même si ce n'est que de l'extérieur, revient à trouver un refuge à la furie des attaques de Satan. En effet, dans l'Église, quand Dieu déverse sa bénédiction sur ceux qui sont réellement rachetés, elle éclabousse certains des non-rachetés, qui se retrouvent dans la proximité de ceux qui appartiennent à Dieu. Être livré à Satan, donc, revient à prendre ce croyant, ou ce non-croyant, qui est dans la famille des rachetés, au moins extérieurement, et à le pousser dans la pleine furie du monde de Satan. Et c'est de cela que nous parlons. Certaines personnes, par le dessein de Dieu, par son dessein souverain, et comme acte saint pour ses propres intentions et sa volonté sont jetés hors du lieu protégé de l'Église dans la dimension satanique, et nous apprenons cela. Paul instruit Timothée dans son premier chapitre et lui dit qu'il devra le faire avec certaines personnes dans l'église d'Éphèse, où il se trouve en ce moment. Paul dit, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, verset 20, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Maintenant, c'est le modèle de ce que je veux que vous fassiez. L'église est un merveilleux havre de paix, un lieu de protection pour les croyants. C'est même un lieu où les non-croyants peuvent venir trouver un certain refuge à la furie de Satan. Mais aussi, la Bible est très claire pour les plans de Dieu. Il y a des moments et il y a des gens qui sont jetés dehors dans le domaine de Satan. Maintenant, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons dit la semaine dernière. Quelquefois, le Seigneur livre un vrai croyant à Satan, pour une raison positive liée à sa souveraineté. Et nous avons vu cela comme illustration dans la vie de Job. Job n'était pas qu'un homme bon. Il était le meilleur des hommes. Un homme intègre, qui honorait Dieu totalement dans sa vie. Un homme juste. Un homme qui aimait et craignait Dieu. Pourtant, le livre de Job nous dit qu'il avait été livré à Satan, et Satan reçut la permission de détruire tous ses biens, de détruire sa famille, et même de lui infliger une terrible maladie, et Job n'avait pas vraiment compris pourquoi tout cela lui arrivait. Même à la fin du livre, il n'était pas très sûr de la raison pour laquelle Dieu l'avait fait, en dehors du fait que Dieu s'était révélé en tant que Dieu souverain. Mais quand nous rentrons dans le livre de Job, nous comprenons pourquoi il avait été livré à Satan. C'était afin de prouver que le véritable amour que l'on a pour lui, la vraie foi en lui, ne dépend pas des circonstances. Job le résume quand il dit « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Quand il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. » La grande vérité du livre de Job est que vous possédiez ou non des bénédictions dans cette vie, que vous soyez complètement dénué de tout. La vraie foi en Dieu et le véritable amour pour lui demeurent parce qu'ils ne sont pas fondés sur ce que nous avons reçu comme bénédiction. Ils sont fonction de qui il est en tant que Dieu digne. Alors Job était un instrument utilisé par Dieu, livré à Satan, pour que Dieu clarifie une importante vérité. Ensuite, Christ a été une illustration de quelqu'un qui est livré à Satan. Il avait été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, dit Matthieu 4. Littéralement, le Saint-Esprit l'avait conduit dans la tentation de Satan, afin qu'il soit trouvé parfait, et que par sa victoire sur Satan, remportée dans ses moments de faiblesse, après 40 jours de jeûne, il démontre sa puissance sur Satan, que même dans ses moments de grande faiblesse, il était un adversaire plus que coriace pour Satan. Ce qui signifie que s'il était victorieux dans cette tentation, il serait certainement victorieux dans la gloire de sa seconde venue, quand Satan sera lié pour l'éternité en enfer. Ainsi donc, Christ avait été livré à Satan aussi, afin de démontrer sa perfection et son ultime puissance sur l'ennemi. Dans 2 Corinthiens 12, nous avons vu notre troisième illustration qui était Paul. Paul avait été livré à Satan. Un messager de Satan lui avait été affecté, une épine dans la chair, et il dit « Je me glorifie en cela, ou je m'en réjouis. Je m'en glorifie parce que dans ma faiblesse, sa force est rendue parfaite. » Paul avait donc été livré à Satan avec des limites, comme tout ceci. Vous vous souviendrez que Job avait été livré à Satan, mais Dieu avait mis des limites. Il y avait des limites pour ce qui était de Christ. Il y avait des limites dans le cas de Paul. Mais dans le cas de Paul, afin qu'il soit humble et dépendant, un messager de Satan lui fut assigné. Ensuite, nous avons vu Pierre. Et Jésus dit à Pierre dans Luc 22:31, « Satan vous a réclamé, afin de vous cribler comme du blé. » Satan était peut-être venu auprès de Dieu comme il l'avait fait pour Job, et il a dit « Je veux Pierre. Je vais te montrer quel type de gars il est. Je vais le dépouiller. » Peut-être qu'il avait tenu un discours comme celui concernant Job, et ainsi donc Pierre a été livré à Satan, non parce qu'il avait commis un péché délibéré, non parce qu'il avait vécu avec une attitude défiante, rebelle. Mais Jésus dit « Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. » Et nous apprenons par cela que Pierre avait été livré à Satan, afin d'être à même de fortifier les frères qui allaient passer par des troubles sévères. Alors, dans les cas de Job, Christ, Paul et Pierre, il y avait un but positif dans le plan souverain de Dieu. Cette semaine, je lisais au sujet de ceux qui souffriront la grande tribulation. Matthieu, chapitre 24, les versets 21 à 22. Il parle de ceux qui souffriront pendant la tribulation, juste avant le second retour de Christ. Dans Apocalypse 6, On les voit pleurer parce qu'ils auront été tués pendant cette tribulation. Il y aura des croyants qui seront privés de nourriture, d'eau, d'emploi, de leur vie durant la tribulation, quand Satan causera le chaos sur tout le globe. Mais quand vous voyez ces mêmes saints au chapitre 7 d'Apocalypse, on les voit sortir de la tribulation, leur robe ayant été lavée, ayant été purifiée dans le sang de l'agneau. Et il dit que jour et nuit, ils sont devant le trône de Dieu, à le louer et à le servir. Et je crois que la Bible dit ici qu'il y aura toute une génération de croyants qui seront littéralement livrés à la furie de Satan, relâchés pendant la tribulation, afin que lorsqu'ils en seront délivrés, ils aient un niveau de louange qui pourra excéder celui de toutes les autres générations rachetées. Alors Dieu, en fin de compte, recevra la louange de la part de ceux qui auront beaucoup souffert, parce que leur délivrance est si grande, si glorieuse. Je veux que vous ouvriez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 2 pour un moment. Les versets 9 et 10. Le message de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est-à-dire Christ. Et Christ dit, je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche. Je sais ce que tu as traversé. Tu as traversé la tribulation. Tu as connu la pauvreté. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, de faux enseignants. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, regardez ceci maintenant. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Écoutez, dans cette petite église de Smyrne, il y avait des croyants qui étaient persécutés pour leur foi. Ils étaient persécutés jusqu'à la mort par le diable. Dieu avait laissé le diable les tuer, et ensuite Dieu les a récompensés avec une couronne de vie. Dieu désire récompenser ses enfants, et il récompense plus ceux qui donnent volontairement leur vie à la persécution. Oui, nous avons vu à partir de toutes ces illustrations que de vrais croyants, les meilleurs des croyants, des leaders comme Job et Paul et Pierre, et des congrégations comme l'église de Smyrne, et ceux qui passeront par les tribulations peuvent être livrés à Satan pour des desseins divins, afin de prouver l'authenticité et le caractère de la foi qui mène au salut, afin de les garder humbles et dépendants de Dieu, afin de les rendre capables de fortifier d'autres qui traversent les épreuves, pour une louange tout au long de l'éternité, parce qu'ils auront été délivrés de tant de choses, et il leur sera octroyé une récompense éternelle spéciale. Oui, des croyants peuvent être livrés à Satan, pour des raisons physiques, des problèmes de famille, même pour la mort, pour des desseins divins. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder un autre aspect de ce sujet. Être livré à Satan, non pour une raison positive, mais pour une raison négative, parce que c'est là la question de 1 Timothée chapitre 1. Ces deux hommes, Hyménée et Alexandre, avaient été livrés à Satan, non pas pour qu'ils prouvent la véracité de leur foi, non pour qu'ils restent humbles et dépendants, non afin qu'ils puissent fortifier les autres, non pas pour qu'ils puissent recevoir une couronne de vie, non pas afin qu'ils offrent des louanges illimitées, infinies et éternelles, au Christ vivant qui les a épargnés et les a fait passer par une terrible tribulation. Non, ils ont été livrés à Satan pour le jugement. C'est différent. Pour le jugement. Et les Écritures illustrent ceci de façon très claire. Retournons dans 1 Samuel chapitre 16, et je vais vous montrer plusieurs illustrations de ceci pendant que nous avançons. 1 Samuel, chapitre 16. Samuel vient oindre celui que Dieu a choisi pour être le nouveau roi. Nous commençons l'histoire au verset 12. Samuel est arrivé dans la maison de Jessé. Dieu a choisi l'un des fils de Jessé. Il envoie le chercher et on l'amène. Il était blond, beau de taille et beau de figure. L'idée ici est qu'il était masculin et beau. Et le Seigneur dit, « Lève-toi, oint-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Maintenant, c'était l'onction de David, le fils de Jessé, pour devenir roi à la place de Saül. Saül avait eu l'onction de l'Esprit de l'Éternel. Il ne s'agit pas d'un commentaire sur son salut personnel ou sur sa spiritualité. L'Esprit de l'Éternel était venu sur David ici, pour qu'il assume la fonction de roi, de la même manière que l'Esprit de Dieu était descendu sur Samson dans Juge, en tant que juge d'Israël. Ceci, c'est, pour le gouvernement du peuple, afin que la volonté de Dieu soit faite. Il ne s'agit pas non plus de commenter sur la spiritualité de Saül ou de David. L'Esprit de l'Éternel avait été sur Saül parce qu'il était roi, et afin que Dieu puisse accomplir ses desseins par ce roi. Le verset 14 dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül ». Maintenant, si cela avait été lié à son salut personnel, ça aurait été complètement différent. Le point, c'est que lorsque l'Esprit vint sur David, il se retira de Saül, parce que la venue et le départ du Saint-Esprit en référence à ces deux hommes étaient liés à leur fonction de roi d'Israël, afin que la volonté de Dieu se fasse pendant leur règne. Remarquez le verset 14. « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Les gens se demandent comment un esprit mauvais peut venir de l'Éternel. Cela ne signifie pas que l'Éternel est mauvais. Cela ne signifie pas que le mauvais esprit demeurait dans la présence de l'Éternel. Tout ce que cela signifie, c'est que même les démons ne peuvent pas fonctionner si Dieu ne leur permet pas. Et quand l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, on aurait dit que Dieu le livrait à Satan. Et Satan dispatcha des démons très puissants, qui allèrent et devinrent des compagnons constants de Saül. Et le mot agité, ce mot fréquent dans l'Ancien Testament, signifie terrifié ou tourmenté. Il fut tourmenté par un démon. Le terme possédé de démon n'est pas biblique. Il est préférable d'utiliser un terme biblique afin que nous comprenions ce dont nous parlons, en rapport au passage de la Bible. Saül devint tourmenté par un démon. Tourmenté par un démon. Même s'il avait eu l'Esprit de l'Éternel en lui pour son règne royal, il fut livré à un jugement rude. Les décisions qu'il avait prises sous pression étaient stupides. L'une d'elles fut d'accuser son fils d'avoir mangé du miel. Il céda à l'orgueil. Il méprisa l'autorité de Samuel et voulut un contrôle unilatéral, une totale assurance, une confiance absolue et la gloire de la part de tout le peuple, plutôt que de la partager avec quiconque. Il était cupide. Il affichait partout son injustice. Sa désobéissance à Dieu était flagrante. Il prit le rôle du sacrificateur et il essaya de masquer sa désobéissance sous un vêtement de spiritualité. Il était un homme très méchant et très mauvais. En conséquence de ceci, l'Esprit de l'Éternel se retira de lui et un mauvais esprit vint terroriser cet homme jusqu'à sa mort. Au chapitre 18, nous en avons un petit aperçu. David était partout où se trouvait Saül. David était celui qui jouait de la harpe pour Saül. Vous connaissez l'histoire. Et Saül lui confia la responsabilité des hommes de guerre et l'éleva à une position de proéminence, et ils remportèrent une grande bataille. La tuerie des Philistins mentionnée au verset 6. Pendant qu'il rentrait, des femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, pendant qu'il revenait à Jérusalem. Elles dansaient et chantaient, et jouaient du tambourin avec joie, et avec des instruments de musique. Et les femmes se parlèrent l'une à l'autre, pendant qu'elles jouaient, et voici leur chant. Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Maintenant, un égomaniaque tel que Saül ne pourra jamais le supporter. Et Saül se mit dans une grande colère. Ses paroles lui déplurent, et il dit, « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Maintenant, David a déjà été oint, mais il n'a pas encore accédé au trône. Et Saül avait très peur, et à partir de ce jour, il regarda David d'un mauvais œil. Il fut encore terrorisé. Il prophétisa dans la maison, apparemment, des choses extasiées. Et David joua pour essayer de le soulager, comme les autres fois. Saül tenait dans sa main un javelot. C'était un puissant guerrier, un homme robuste, habile au javelot. Saül lança le javelot et dit, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Et au chapitre 19, verset 9, « Le mauvais esprit venant de l'Éternel était sur Saül. » Pendant qu'il était assis dans sa maison, son javelot à la main. Et David jouait, et Saül cherchait à frapper David contre le mur, avec le javelot. Mais il se détourna de la présence de Saül. Il frappa de son javelot la paroi, et David prit la fuite et s'échappa pendant cette nuit. Maintenant cet homme est terrorisé par un démon. L'histoire de Saül, l'homme tourmenté, va de mal en pis. Quand ce démon lui avait été donné, il avait été livré à Satan. Même s'il avait été auparavant sous l'Esprit de l'Éternel, même s'il avait fait partie du peuple de l'Alliance de Dieu et avait bénéficié de la protection que cela apporte, qu'il ait été un vrai croyant ou non, il avait bénéficié de la protection du peuple de l'Alliance. Il avait connu la bénédiction qui émane du cadre où Dieu déverse l'accomplissement de ses promesses. En tant que roi, il avait connu la présence de l'Esprit de l'Éternel, mais il a maintenant été vomi. L'Esprit de l'Éternel se retire, et il est tout seul, abandonné au royaume de Satan. Et il ne devient pas seulement mélancolique, pas seulement désespéré. Il ne s'agit pas ici d'une désorientation psychologique. Il est démonisé, et il est soumis au contrôle d'une puissance maléfique surnaturelle, vile et méchante, qui le mène à l'insanité, à des meurtres de masse, à l'occultisme, et finalement au suicide. Et comme Thomas Manton, le puritain, dit, le diable prend plaisir à tourmenter les hommes avec des terreurs irraisonnables. Le diable tente et tourmente à la fois. Le diable l'avait livré aux forces diaboliques, non pour l'instruction, dans une souveraineté divine, non pour qu'il puisse garder son humilité, il n'en avait pas, non pour le rendre dépendant, non pour l'aider à fortifier les autres, non pour lui donner une couronne de vie, non pour le pousser à louer pour l'éternité, mais pour le punir, pour le juger. Et il est allé droit dans le fossé de l'occulte. Il consulta ensuite la sorcière d'Endor, en consultant des médiums et des esprits démoniaques. Et quand le Seigneur est venu sous la forme de l'Esprit dans le chapitre 19 et l'a fait prophétiser, il était tellement hors de contrôle dans la prophétie qu'il se déshabilla, tomba sur le sol prostré et totalement exposé dans l'humiliation totale, réellement, dans un sens, dépourvu de son intelligence. Plus tard, il a massacré tout un groupe de bons sacrificateurs, parce qu'ils avaient donné des provisions à David, puis il mit fin à sa vie par un suicide, ce qui, soit dit en passant, est un acte rare dans toutes les annales de l'histoire d'Israël, mais pas rare parmi ceux qui sont livrés à Satan. Regardons Jean 13. Jean 13, verset 27. C'est la chambre haute. C'est la nuit de la trahison de Jésus-Christ. Le principal personnage de notre focus, c'est Judas Iscariote, le fils de Simon. Judas qui avait été avec Jésus pendant 3 ans. Judas qui avait tout vu ce qu'il avait fait, entendu tout ce qu'il disait, vu les miracles. Judas qui ne pouvait nier ni la véracité de Christ. Judas qui ne pouvait nier ni la perfection de Christ, ni la puissance de Christ, a rejeté tout cela. Et le verset 27 dit, l'un des passages de l'Écriture les plus tragiques, dès que le morceau fut donné, c'est-à-dire après avoir pris ce morceau de pain, et l'avoir trempé, ce qui faisait partie du repas de la Pâque, Satan entra dans Judas. Le programme divin était dressé, et Dieu livra Judas à Satan. Il avait fait partie de la communauté des apôtres. Il avait été protégé de la pleine furie du monde de Satan à cause de la couverture de ce groupe, que Dieu avait tellement béni par la présence de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il est exclu de ce groupe. Il est livré à Satan. Satan entre en lui. Jésus dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. Fais-le promptement. » Et dans Luc, chapitre 22 et au verset 3, le texte le dit de cette façon, juste pour ajouter à la compréhension que vous avez déjà. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Il sortit, rempli de l'énergie de Satan. Il vendit Jésus-Christ, puis, pris de remords, il sortit et se mit une corde autour du cou, et se pendit. La corde se rompit, ou la branche se cassa. Il tomba, se cogna contre une pierre, et ses intestins se répandirent partout. Un suicide, exactement comme Saül, livré à Satan, sorti de ce lieu abrité, de protection. Saül, je crois, illustre le non-croyant, qui est béni en étant dans la présence du peuple promis de Dieu. Judas, pareil, mais chassé pour le jugement, à cause de leur mauvais cœur. Allons dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Il y avait un homme au verset 1, appelé Ananias, qui avait une femme, nommée Saphira. Ils vendirent une possession. Évidemment, ils firent la promesse à Dieu qu'il lui donnerait tout le fruit de la vente, 100%. Mais ils retinrent une partie du prix. Donc ils mentirent au Saint-Esprit. Ils vinrent donc, prétendant qu'ils apportaient le montant total, et le déposèrent aux pieds des apôtres. Le Saint-Esprit instruisit Pierre de leur mensonge. Alors Pierre dit à Ananias, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Quand il mentait au Saint-Esprit, c'était le résultat d'une mauvaise intention, qui le livra littéralement à Satan. Maintenant, je crois qu'il n'existe aucune raison pour supposer que ce n'était pas un croyant. Après tout, c'est au Saint-Esprit qu'il avait menti, et seul un croyant a une telle communion avec le Saint-Esprit. Le résultat, verset 5, il tomba et mourut. Je crois que le Seigneur l'avait livré à Satan. Satan le remplit et Satan le tua. Sa femme arriva 3 heures plus tard, ne sachant pas ce qui était arrivé. Elle entra, la même histoire se produisit. Verset 9, Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, ils vont t'emporter, toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Maintenant, voici 2 croyants qui mentirent au Saint-Esprit. Ils furent livrés à Satan. Satan est, selon Hébreux 2, celui qui a le pouvoir de la mort. Il y a des moments où Dieu livre des gens à Satan pour utiliser cette puissance. Et dans ce cas, c'est ce qui arriva, livré à Satan à cause du péché. Dans le cas de Judas, un non-croyant. Dans le cas de Saül, vraisemblablement, un non-croyant. Dans le cas d'Ananias et Saphira, des croyants livrés à Satan pour être châtiés. Vous dites, sont-ils allés en enfer? Non, ils sont allés au ciel, s'ils étaient de vrais croyants. Mais le jugement était néanmoins très sévère et poussa les autres à être saisis de crainte. Il y a donc ceux qui sont au sein de la communauté protégée qui peuvent être livrés à Satan. Non pour qu'une grande vérité leur soit enseignée, non pour préserver l'humilité, non pour qu'ils puissent fortifier les autres, non pour obtenir une récompense, non pour une louange éternelle, mais pour le jugement. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, un passage familier. On entend dire généralement, dit le verset 1, « Ceci est connu de tous, tout le monde le sait. » Paul dit, « Je l'ai entendu non d'une source, » mais de plusieurs sources qu'il y a la fornication. C'est le mot « pornea », duquel nous avons le mot « pornographie ». Il y a parmi vous de l'impudicité. Il s'agit là d'une église, les amis. Il s'agit de l'église de Corinthe, qui se glorifiait. Je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi de Pierre, et moi de Christ. Ceux qui pensaient qu'ils étaient des rois, ceux qui pensaient qu'ils avaient toutes les réponses. Il s'agit ici d'une église. Il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Quel type de fornication est-ce là? L'inceste. L'un d'eux avait la femme de son père. Maintenant, il y a des choses que vous devez savoir à ce sujet. Le fait que le mot impudicité soit utilisé à la place du mot adultère nous conduit à croire qu'il pouvait s'agir de quelque chose en dehors du mariage. Et ce qui se serait passé ici, la femme de son père indique la belle-mère. Autrement, il aurait utilisé le terme « mère », avoir des rapports sexuels avec sa mère. Mais dire « la femme de son père » renvoie probablement à une belle-mère. Et le mot « impudicité » peut le sortir du mariage. Alors ce qui peut s'être passé, c'est qu'un fils entamait une relation sexuelle avec sa belle-mère, ce qui finit par le divorce, et la relation est maintenue en tant que fornication après le divorce. C'est une véritable possibilité. Il est aussi probable que la femme n'ait même pas été à l'église. Mais au lieu que l'église fasse quelque chose de cette relation incestueuse qui avait peut-être causé un divorce et qui pourrait avoir continué avec une femme non régénérée, toutes ces choses, au lieu de faire quelque chose par rapport à cela, le verset 2 dit « Vous en êtes fiers, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez même pas été dans l'affliction. Vous auriez dû ôter du milieu de vous celui qui a commis cet acte. Vous auriez dû l'excommunier. » Simplement dit, vous auriez dû le livrer à Satan. Chassez-les de l'Église. Ne leur permettez même pas de profiter de la protection de l'Église. Vous dites, est-ce un croyant? Je crois que oui, comme nous allons le voir. Paul dit au verset 3, « Pour moi absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Je ne suis pas là, mais je sais ce qui doit être fait. Je ne suis pas là, mais je sais exactement comment cette personne devrait être traitée. J'ai posé mon jugement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, quand vous vous assemblez, et mon esprit, avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ, livre une telle personne à Satan. Que veut-il dire? Sortez-le. C'est ici le seul autre endroit où les termes de 1 Timothée 1:20 sont utilisés. Livrez-le à Satan, ce qui signifie chassez-le de l'Église. Ne lui permettez pas de jouir de la protection de l'Église. dans les termes de Matthieu 18. Vous avez respecté le processus de discipline en allant vers lui. Deux ou trois sont allés vers lui. L'Église est allée vers lui. Maintenant, traitez-le comme un païen et un publicain, comme un étranger. Mettez-le dehors. Cette instruction ressort aussi dans 2 Thessaloniciens 3:6. Éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre. Verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui. Excluez-le, livrez-le à Satan. Voilà ce qu'est la discipline de l'Église quand elle a dépassé ses limites. C'est la raison pour laquelle, lors du service de la Sainte Cène, quand nous nous assemblons, conformément au verset 4, quand nous nous assemblons pour la communion, comme ce sera le cas ce soir, s'il faut appliquer la discipline, elle se fait ici. Nous les mettons dehors. Mais j'ai remarqué tout au long de mon ministère qu'il y a des gens qui ne savent même pas que le Seigneur excommunie. Je me demande souvent pourquoi les gens disparaissent et n'apparaissent pas pendant une longue période de temps. Et puis j'apprends la tragédie que connaît leur vie. Un mariage en ruine, l'immoralité, l'ivresse et des choses de ce genre. Et je réalise alors ce que nous ne savions pas. Dieu savait. Et ce que nous ne pouvions pas purger, Dieu l'a purgé. Chassez-le, dit-il. Votre fierté n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous ne pouvez pas voir cela dans l'Église. Sortez-le. Ensuite, il dit au verset 9 et 10, « Je vous dis de ne pas avoir de relation avec ces gens, avec les impudiques, les cupides, les ravisseurs et les idolâtres. Et je ne parle pas des gens du monde. Je parle de ceux qui, se nommant frères, sont impudiques, cupides, idolâtres, outrageux, ivrognes ou ravisseurs. Ne mangez même pas avec un tel homme. » La fin du verset 13. « Ôtez le méchant du milieu de vous. Livrez-le à Satan. » Maintenant, retournons au verset 5. « Quand vous les livrez à Satan, c'est pour la destruction de leur chair. » L'avez-vous compris? C'est pour la destruction de leur chair. Que signifie cela? Oh, cela peut signifier plusieurs choses. Une crise cardiaque, le cancer, j'ai vu cela, les maladies vénériennes, le sida, cela pourrait signifier l'adultère dans le mariage. Cela pourrait signifier la destruction d'un foyer, la maladie d'un membre de famille. Écoutez, pourquoi Job devait-il être livré à Satan? Toutes ces choses. Cela peut signifier la perte d'un emploi, la perte de votre carrière. Quand vous êtes livré à Satan, il n'y a aucun moyen de prévoir ce qui peut arriver. Mais je pense que nous minimisons le fait que cela peut prendre plus de proportions que nous ne voulons admettre. Et nous pouvons attribuer des maladies et d'autres désastres à beaucoup d'autres choses, alors qu'elles appartiennent à cette catégorie-ci, la destruction de la chair. Remarquez que la destruction est limitée. Elle était limitée dans le cas de Job, et elle a été limitée dans les cas de Paul, Pierre, et elle est aussi limitée ici. Satan peut détruire sa chair, mais son esprit sera sauvé, au jour du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je crois qu'il s'agit ici d'un chrétien, mais aussi la référence à un frère, au verset 11. Vous ne pouvez pas détruire une âme qui appartient à Dieu. Mais vous pouvez certainement dévaster son monde physique, sa vie physique. Cela peut arriver. Vous ne voulez pas être livré à Satan aux fins du châtiment. Je voudrais vous montrer un autre passage qui parle de ceci. Apocalypse chapitre 2. Il s'agit ici d'une église. L'église dans la ville de Thyatire, en Asie mineure. Et en écrivant à l'église, le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tu es une église très occupée, une église très active, mais j'ai quelque chose contre toi. Les voici, tu laisses cette femme Jézabel. Et cela peut ne pas être une femme appelée Jézabel au sens propre du terme, mais un type de Jézabel, une femme idolâtre qui est Dieu, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Cette femme est arrivée, a conduit cette église dans l'impudicité et dans la fausse doctrine, et dit, « Je lui ai donné, ainsi qu'à ses suiveurs, du temps afin qu'elle se repentît de son impudicité, mais elle ne veut pas, l'impudicité et la fausse doctrine, parce qu'elle ne veut pas se repentir, je vais la jeter sur un lit. » Implication. « D'accord, si elle veut être au lit, je vais la jeter dans un lit, d'accord. » Je vais la jeter dans un lit avec Satan. C'est tout ce que je vais faire. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commentent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir ses enfants. et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous et au reste de Thyatire, je dis, observez ceci. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui ne suivent pas Jézabel, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Il établit un contraste entre ces vrais croyants, les croyants obéissants, et ceux qui sont jetés dans le lit de la tribulation et de l'immoralité, de ceux qui ont connu les profondeurs de Satan. Il les plonge littéralement dans les profondeurs de Satan. Quelle expression ! Quelle expression ! Réfléchissez-y, livrés à Satan. Maintenant, nous devons être très prudents. Vous qui êtes des non-croyants dans l'Église, qui venez pour un bénéfice quelconque, dont vous pouvez jouir, vous courez le danger d'être livrés à Satan pour le jugement éternel. Ceux de nous qui sommes croyants, en cultivant la désobéissance, la fausse doctrine ou l'immoralité, nous courons le risque d'être livrés à Satan pour être châtiés, ce qui peut résulter en toutes sortes de dévastations physiques, aux désastres qui sont indiqués dans tous ces textes, aussi bien qu'à la mort. Vous voyez, Pierre dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui, quoi, dévorer, avaler, consumer. Et quand vous êtes livrés à Satan, vous êtes livrés à sa puissance dévorante. Maintenant, souvenez-vous, que dit Paul ? Retournons dans 1 Timothée, et je pense que nous l'avons maintenant en perspective. Que dit-il ici par « J'ai livré Hyménée et Alexandre à Satan » ? Ils n'étaient très probablement pas des croyants, parce qu'ils avaient corrompu l'Évangile, et il les avait livrés afin qu'ils apprissent la conséquence du blasphème. Maintenant, nous ne savons pas si cela signifiait qu'ils allaient mourir, si cela signifiait une maladie, une dévastation de leur possession, ou la perte de tout ce qu'ils avaient. Toute dévastation que Satan voulait apporter dans les limites autorisées par Dieu arrivé. Paul est en train de dire, « Écoute, Timothée, tu dois combattre un combat au sein des responsables de l'Église. Vous vous souvenez de ce que nous avons d'abord dit. Vous avez une responsabilité envers l'Église. » Verset 18. « Tu es responsable devant le Seigneur. » Verset 19. « De garder la foi et une bonne conscience. » Et maintenant, tu as la responsabilité de faire face à l'ennemi. Et je t'ai montré l'exemple. Ce que j'ai fait d'eux, tu dois le faire avec ceux qui corrompent l'Église par la fausse doctrine et la souillure. Maintenant, regardons le verset 19 et voyons ce qu'il dit d'eux. Il les appelle quelques-uns. Quelques-uns. Ce sont les mêmes que certaines personnes, des versets 3, 6 et 7. Il y avait des pasteurs dans l'Église d'Éphèse, et peut-être les églises environnantes qui enseignaient la fausse doctrine. Mais ces pasteurs, dont certains renvoient à une bonne conscience. Ne s'intéressez pas à avoir une bonne conscience. Que vous ai-je dit ? Une mauvaise théologie émane toujours d'une mauvaise morale. La doctrine d'un homme est toujours en adéquation avec sa moralité. Et quand les gens rejettent la vérité de la parole de Dieu, ils le font parce qu'ils veulent substituer un système qui accommode leurs désirs au péché. Alors, il y en a qui n'ont aucun intérêt à avoir une bonne conscience. Ils ne s'y intéressent aucunement. En fait, que certains ont rejeté. Ce mot « apotheo », un mot très fort, signifie « rejeter violemment ». Il signifie « repousser vigoureusement ». Ils ne veulent rien avoir à faire avec. Ils ne veulent pas d'une conscience pure. Ils ne veulent pas vivre pour la sanctification. Ils ne veulent pas vivre pour la pureté. Ils veulent vivre selon leur propre convoitise, leur succès personnel, leur gratification propre. En conséquence, quand ils refoulent une bonne conscience, ils font naufrage dans la foi. C'est tout comme jeter le gouvernail. Vous êtes à la merci du vent et de la mer. Ils confessent être chrétiens et pasteurs et enseignants de la loi de Dieu, mais n'ont aucun intérêt pour la pureté, aucun engagement pour la sainteté. Ils sont littéralement vides de toute vérité. Ils ont fait naufrage par rapport à la vérité, parce que la vérité n'émane pas d'un cœur immoral. Non, une mauvaise conscience et l'erreur vont toujours de pair. Dans 2 Timothée 2, nous trouvons une note qui devrait être comparée à ceci. Il dit que leur parole, à ce type de personnes, ronge comme la gangrène. Elle tue. De ce nombre sont Hyménée. Il est encore une fois mentionné ici, et cette fois un autre frère, Philète, qui se sont détournés de la vérité, se sont détournés. Et puis au verset 19, il dit « Quiconque prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité ». Nous voyons donc encore l'erreur et l'iniquité. Ces gens se sont détournés. Ne vous détournez pas. Alors, éloignez-vous de l'iniquité. Le fondement duquel vient l'erreur, le sol dans lequel pousse l'erreur, c'est le sol de l'impureté. Alors une bonne conscience n'intéressait pas ces hommes. Ils s'intéressaient au mal, et ils ont donc jeté le gouvernail, qui est la conscience qui donne la directive. Et ils étaient à la merci du vent et de la mer, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il est mention d'eux plusieurs fois. Hyménée, qui est aussi mentionné, comme je l'ai lu dans 2 Timothée 2:17. Nous ne savons rien de lui. Il n'est mentionné que deux fois. L'autre, c'est Alexandre. Il y a un Alexandre mentionné dans 2 Timothée 4, 14-15. Il y a un Alexandre mentionné dans Actes 19, 33-34. Il n'y a aucune raison de croire que c'est la même personne, parce que c'était un nom aussi commun que Jean de nos jours. Un nom très très commun. Ce que nous avons ici, donc, ce sont deux pasteurs, juste à leurs propres yeux, égoïstes, qui voulaient être des enseignants proéminents de la loi, mais qui ne savaient rien de ce qu'ils affirmaient, substituant mythe et généalogie, fable et raisonnement humain à la révélation de Dieu, tout en menant des vies très hideuses. Et Paul dit, « Je les ai mis dehors, et c'est cela le modèle, Timothée. Si tu veux être un bon soldat dans un combat noble, tu dois comprendre tes obligations envers l'Église, envers le Seigneur, et tu dois comprendre ta responsabilité à confronter l'ennemi. » Maintenant, quand il dit « que j'ai livré à Satan », il veut dire que j'ai chassé de l'Église. Je les ai chassés. J'ai éloigné ces pécheurs de la protection et de la couverture du peuple de Dieu. Je les ai mis dans le domaine du diable, loin de l'influence de tout ce qui est bon et pieux. Pourquoi ? Afin qu'ils apprennent qu'on ne peut pas blasphémer et rester impuni. Et le mot « apprendre », paideuio, signifie « former par la punition ».« Former par la punition », c'est un mot très significatif. Il est utilisé dans Luc 23, versets 16 et 22. Il est traduit par « châtier », et il fait allusion au fouet qui avait été donné à Christ. C'est former ou punir quelqu'un par des afflictions de coups physiques. Dans 2 Corinthiens 11, vous connaissez ce passage familier. Paul parle, dans 1 Corinthiens 11 plutôt, du service de Sainte Cène, et dit comment certains étaient faibles et malades, et d'autres sont morts. Et il dit que quand nous sommes jugés, quand le Seigneur prend nos vies, quand il laisse le diable nous tuer ou nous rendre malades, nous sommes châtiés par le Seigneur. C'est le même mot, nous sommes formés par la souffrance. De même que vous devez former un enfant en usant de la douleur physique. Et c'est ce qui va arriver à ces gens. Ce mot est répétitivement utilisé dans le Nouveau Testament pour évoquer la formation par la punition, la formation par la souffrance. Il est utilisé dans 2 Corinthiens 6-9. Il dit « comme châtiés, quoique non mis à mort ». En d'autres termes, nous sommes physiquement frappés, mais pas mis à mort, indiquant encore son usage de cette façon. Dans Hébreux 12, c'est utilisé au verset 6, 7 et 10. Quand le Seigneur châtie, il châtie par la punition et la souffrance. Maintenant, voici le point. Vous ne pouvez pas voir cette parole, afin qu'ils apprennent, sans comprendre qu'elle comporte l'idée de l'affliction, d'une punition physique. Je ne sais pas de quelle maladie ils furent atteints. Je ne sais pas quel désastre frappa leur vie. Je ne sais pas si cela signifiait leur mort. Mais ils furent livrés à Satan pour être punis en guise de leçon, afin d'apprendre que l'on ne peut pas blasphémer. Une leçon pour eux et pour tous les autres. Blasphémer signifie calomnier Dieu, ridiculiser Dieu, blasphémer le nom digne par lequel vous êtes appelé, dit Jacques 2:7. Dans les derniers jours, 2 Timothée 3:2 dit qu'il y aura des blasphémateurs. Mais les blasphémateurs, ceux qui ridiculisent Dieu, qui calomnient Dieu, courent un grave danger. Maintenant, vous demandez, que voulez-vous dire par là? Tout ce que vous faites en désobéissance à Dieu est un blasphème. Tout ce que vous dites qui dit du mal de Dieu est un blasphème. Et tout blasphème mérite de la discipline. Et vous, ou moi, ou toute personne qui fait quelque chose contre la volonté et le dessein de Dieu, qui agit de façon impure, qui calomnie le caractère de Dieu, calomnie la personne de Dieu, ou qui renie ou désobéit à la parole de Dieu, est blasphémateur à un degré ou un autre, et donc susceptible de devoir apprendre par une punition qui lui sera physiquement infligée, des leçons qui pourraient être nécessaires pour l'en éloigner. Alors il y a ceux qui, selon le dessein souverain de Dieu, sont livrés à Satan, et Dieu a un objectif positif en pensée. Il y en a qui, conformément à la souveraineté de Dieu, et suivant la direction de l'Église, sont livrés à Satan, et Dieu a un objectif négatif en pensée, l'affliction d'une lourde punition pour le jugement ultime, final et éternel, ou pour un châtiment temporel. Dans l'un ou l'autre des cas, ils doivent apprendre la conséquence du blasphème. Et le blasphème, je le redis, est toute désobéissance, ou calomnie, ou rejet de la personne et de la volonté de Dieu. Plusieurs choses dont il faut se souvenir, donc, pendant que nous résumons. On peut être livré à Satan pour des desseins de Dieu comme Jacob, pour les desseins de Dieu, afin que Dieu prouve sa position. Cela peut être aussi pour moi, comme Paul, afin que je reste humble et dépendant. Cela peut être aussi pour les autres, comme Pierre, afin que je sois à même d'instruire les autres. Cela peut être pour le désir de Dieu, pour récompenser et donner une couronne de vie. Cela peut être pour une grande louange, une fois que l'épreuve est terminée. Mais d'autre part, cela pourrait être pour le châtiment, comme dans le cas d'un frère incestueux à Corinthe, ou Ananias et Saphira. Cela peut être pour le châtiment à la mort, comme dans le cas de l'église de Thyatire, commettre la fornication et écouter la fausse doctrine. Cela peut être aussi pour un dernier jugement, comme dans le cas de Saül ou Judas, ou Hyménée et Alexandre. Maintenant, quel est le remède? Comment évitez-vous la partie du châtiment et la partie du jugement? En recevant la vérité et la sainteté de Dieu en Christ. Et c'est vraiment cela le message. Tout cela devait conduire à ceci. Il se pourrait que Dieu veuille me livrer à Satan. Il se pourrait que pour ses desseins personnels, il veuille que je souffre de blessures infligées par Satan à mon égard, à un degré ou à un autre, d'une manière ou d'une autre dans la vie. Ma seule prière est que ce soit pour sa gloire et pour mon bien, pour la fortification et l'avancement de son royaume, non pour la punition, ni pour le châtiment. Et s'il faut que je souffre à cause d'un messager, si je dois, comme Pierre, être livré pour une période de temps, je ne peux que prier que Dieu en tire la plus grande gloire et que je sois un serviteur plus fidèle. Et cela fait que livrer à Satan est un acte bienvenu, si c'est le dessein de Dieu, par opposition à être livré pour être physiquement puni, pour avoir blasphémé. Alors, en tant que croyants, nous cherchons à éviter cela en poursuivant une vie de sanctification. Baissons nos têtes et prions. Seigneur Dieu, nous venons avec des cœurs qui ont littéralement été remués à cause de ce que la parole nous a dit aujourd'hui. Nous savons que nous sommes dans un grand combat surnaturel, et nous savons qu'en tant que chrétiens, nous t'appartenons, et peu importe comment tu choisis de nous utiliser, en tant que tes soldats, nous voulons être utilisés, peu importe la perte qui pourrait être nécessaire, afin qu'il y ait un gain supérieur, nous pouvons accepter. Mais Seigneur, nous ne cherchons pas à être châtiés, à être livrés à Satan pour la destruction de la chair, à cause de la méchanceté, pour avoir blasphémé contre toi, pour avoir rejeté la vie de sanctification à laquelle tu nous as appelés, et pour laquelle tu nous as équipés dans ton esprit. Alors Seigneur, appelle-nous à l'obéissance, et applique-la en nous par la puissance de l'esprit. Éloigne-nous du monde et des péchés subtils qui nous semblent ne pas être des péchés du tout, mais qui sont des blasphèmes contre toi. Montre-nous ces fautes secrètes, ces péchés de présomption dont le psalmiste écrit, afin que nous puissions connaître ta main de bénédiction dans tout ce qui pourrait survenir. Nous voulons avoir une vue plus large pour voir le conflit spirituel et en faire partie de quelque façon possible pour ta gloire. Empêche-nous de mal nous battre et aide-nous à mener une guerre noble, en réalisant notre responsabilité envers l'Église, en tant qu'appelés, commissionnés et confirmés pour le service, réalisant notre responsabilité envers toi, de détenir la foi et une conscience pure, réalisant notre responsabilité de faire face à l'ennemi, afin que l'Église puisse maintenir sa pureté. Père, aide-nous à trouver ce mal dans nos propres cœurs, à trouver ce mal qui est au milieu de nous, et, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas trouver, trouve-le et ôte-le, afin que nous soyons un témoignage pour ta gloire. Et je voudrais aussi prier, Seigneur, pour toute personne dans cette congrégation ce matin, qui aurait déjà été livrée à Satan, qui souffre déjà dans ses mains. Si c'est une raison positive, Seigneur, donne-leur une grande foi et la force pendant qu'ils y sont. Bâtis-les, rends-les plus utiles. Et Seigneur, si c'est un moyen de les châtier, qu'ils se repentent, qu'ils se détournent de leurs péchés, afin qu'ils soient arrachés au diable. S'ils se trouvent au seuil du jugement éternel dans les mains de Satan, ô Dieu, puissent-ils embrasser le Sauveur avant qu'il ne soit trop tard.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.